dimanche dernier, j'étais dans l'église d'origine de mon épouse, à Genève. Nous avons vécu un très bon culte ensemble. Et j'ai ramené un petit bout de Genève, puisque Elisabeth est venue rejoindre Kevin. Il y a des échanges comme cela. Ce matin, nous sommes à Kevin, au seuil d'une nouvelle année. Et il y a toujours, dans la tête d'un prédicateur, cette question: que dire, qu'apporter comme nourriture pour le culte d'une nouvelle année? Et j'ai décidé de vous apporter quelques méditations sur le psaume 126. Le psaume 126 est un psaume de 6 versets, et peut-être pourrait-il devenir le psaume de votre année 2016. D'ailleurs, sans le faire exprès, à part le zéro, vous avez tous les chiffres de l'année 2016 dans le psaume 126. Ça vous donnera à avoir un moyen mémotechnique pour vous en rappeler, mais ça pourrait devenir, en le lisant et en le travaillant, un psaume pour cette nouvelle année. Alors, nous allons le lire ensemble, en prenant le temps, le psaume 126, Cantique des montées. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors, notre bouche riait de joie et notre langue poussait des cris de triomphe. Alors, on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des torrents dans le Négev. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec cris de triomphe. Celui qui s'en va en pleurant quand il porte la semence à répandre s'en revient avec cris de triomphe quand il porte ses gerbes. Un très très beau cantique. Il est intitulé « Cantique des degrés » ou « des montées » suivant votre Bible. Alors juste pour rappel, il y a 15 psaumes, du psaume 120 au 134, qui sont qualifiés de psaumes des montées. Alors les psaumes des montées, il y a plusieurs explications qui sont données pour dire de quoi il s'agit. Et l'explication est différente selon les exégètes. Luther pensait que ces psaumes étaient lus du haut d'une chaire, donc le grand réformateur allemand, alors que les autres psaumes étaient chantés par le peuple. Donc ces psaumes 120 à 134. L'interprétation des rabbins se rapporte davantage au sens, et les lévites, disaient-ils, étaient placés sur les 15 marches du temple et aurait eu l'habitude de lire ces psaumes en montant une marche chaque jour. C'est une interprétation cultuelle à un moment précis, des jours de fête. Et puis l'interprétation la plus courante se rapporte au pèlerinage que les Israélites devaient faire tous les ans, lorsqu'ils allaient à Jérusalem, notamment à Pâques. Et ce pèlerinage qu'ils accomplissaient au moins une fois par an, lorsqu'ils allaient à Jérusalem, alors, durant leur trajet, ils avaient l'habitude de chanter ces cantiques, du cantique 120 au cantique 134. Alors, je ne sais pas quelle est la bonne interprétation pour dire ce qu'il en est du psaume des degrés ou des psaumes des degrés ou des montées. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a véritablement, si vous lisez les psaumes 120 à 134, je dirais une élévation de l'homme vers Dieu au fil de la lecture des psaumes 120 à 134. Beaucoup de croyants se posent la question: qu'est-ce que je pourrais lire dans la Bible qui forme un tout? Qu'est-ce qui pourrait m'apporter quelque chose pour m'enseigner, me parler de Dieu? Quel livre, dans quel ordre, quelle suite pourrait comprendre une certaine logique spirituelle et qui pourrait m'apporter? Alors ceux qui essayent de commencer en se disant « je vais lire le Lévitique », je leur souhaite bon courage. Ou ceux qui se disent « je vais prendre Ézéchiel ou l'Apocalypse », bon courage aussi. C'est pas toujours évident, hein, vous le savez. Mais si vous avez envie de vivre une expérience de lecture spirituelle, je vous invite, pendant cette année 2016, à lire les psaumes démontés du psaume 120 au psaume 134. Et vous verrez que ces psaumes se lisent comme des prières personnelles. Un psaume chaque jour qui marque ou qui symbolise ou qui illustre la marche spirituelle du croyant qui s'en va rencontrer le cœur de Dieu. Un voyage qui commence dans le psaume 120 par un cri de détresse et qui finit dans la louange. Lorsqu'on lit le psaume 120, ça commence par « C'est à l'Éternel que dans ma détresse j'ai crié et il m'a répondu. » On commence dans la détresse, tellement loin de Jérusalem, tellement loin de Dieu, tellement loin de la réconciliation et du cœur de Dieu. Mais si on tourne les pages, vous verrez que le psaume 133, l'avant-dernier psaume, dit « On est arrivé ensemble dans la présence de Dieu. Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. » Et le psaume 134 qui clôture les psaumes de montée est un psaume de louange et d'adoration. « Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. » Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Ces 14 psaumes sont des psaumes qui montrent comment l'homme qui est parti de sa détresse se retrouve dans la présence de Dieu, dans la louange et dans l'adoration. Je vous invite vraiment à faire cette expérience de lecture des psaumes démontés. Le psaume 126 se trouve non pas au début du pèlerinage ou de l'aller vers Dieu, il se trouve déjà quelques pas plus loin. Il n'a pas de nom d'auteur, alors que parmi les psaumes démontés, 4 sont attribués à David et 1 à Salomon. Et 2/3 sans auteur, et puis 1/3 entre David et son fils. Et puisque nous parlions d'évolution dans le psaume démontés, il est bon de regarder quels sont les thèmes qui sont juste avant le psaume 126. Eh bien, dans le psaume 125, c'est un psaume qui parle de la confiance en Dieu. Dans ma marche avec Dieu, j'ai découvert ce qu'était la confiance. Pouvoir lui faire confiance, jour après jour, dans mon quotidien, dans mes questionnements, dans les enjeux qui se posent dans ma vie. Le psaume, le psalmiste du psaume 125 dit « Voilà, j'ai appris et découvert la confiance. Ceux qui se confient en Dieu sont comme la montagne de Sion qui ne chancelle pas, elle subsiste à toujours. » Est-ce que nous sommes arrivés au moins au psaume 125 dans notre vie avec Dieu? Est-ce que nous pouvons dire « Voilà, je suis comme la montagne de Sion, je ne bouge pas. » Ouais, de temps en temps, je suis un petit peu comme la montagne de Sion, et de temps en temps, je suis un peu semblable à un cerf-volant. C'est-à-dire que ça flotte un peu de tous les côtés. C'est ça l'apprentissage de la vie avec Dieu. Mais certainement, Dieu a voulu nous apprendre et veut nous apprendre jour après jour à avoir confiance en lui. Alors le psaume 125, juste avant le psaume 126, c'est cela. Voilà, j'ai découvert et j'ai posé le principe que j'ai confiance en Dieu. Et maintenant que j'ai lu et découvert ce principe spirituel, le psaume 126 est l'étape suivante. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion. Apparemment, c'est un psaume qui a été écrit. Tous les psaumes démontés ont été écrits à des époques différentes. Mais le psaume 126 a été composé à un moment où une partie du peuple d'Israël avait été ramenée de captivité. Donc un retour partiel du peuple juif. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. le retour de Sion, dans ce premier verset, parle de ceux qui sont déjà rentrés, ceux qui sont revenus dans les promesses de Dieu. Israël devait et doit, quelque part, être attaché à l'endroit où il a été appelé. Et dans ce psaume, « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. » Ce psaume parle d'Israël, il parle de nous aujourd'hui aussi. Nous pouvons nous aussi dire « Nous étions captifs, nous étions en esclavage, nous étions asservis. » Et l'Éternel nous a ramenés dans le pays de la promesse. Alors, pas la terre d'Israël qui est celle du peuple juif, mais dans notre terre à nous, dans notre vie, Dieu nous a ramenés là où il nous voulait, dans ses plans et dans sa volonté en Jésus-Christ. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, lorsqu'il est parlé de ramener les captifs de Sion, le mot captif, en fait, est un mot très rare qui signifie plus le retour ou la restauration. Quand l'Éternel ramena la restauration de Sion, c'est-à-dire ceux qui sont déjà restaurés, sauvés, quand Dieu les ramena, c'est un terme très très rare qu'on trouve très peu dans l'Écriture. La traduction littérale de ce premier verset, ça serait plutôt « quand l'Éternel fit retourner la restauration de Sion ». La restauration de Sion. Quand il ramena ceux qui étaient déjà la restauration. Vous savez quoi ? Est-ce que nous sommes aujourd'hui, les uns et les autres, la restauration du royaume de Dieu au milieu du monde ? C'est cela ce que dit ce psaume par rapport à Israël, et cela que cela signifie pour nous aujourd'hui dans l'Église. Est-ce que nous sommes la restauration du royaume de Dieu au milieu du monde? Est-ce que nous sommes cette restauration du royaume de Dieu qui peut témoigner au monde qui nous entoure et attester que nous sommes revenus vers Dieu? Quand l'Éternel ramena ceux qui étaient une restauration du royaume de Dieu de Sion. Certes, il ne s'agit pas pour nous de reconstruire Jérusalem. J'ai vu dans l'actualité qu'il a été vendu 125 millions d'euros un château qui a été construit avec toute la technicité de notre époque et qui reproduit Versailles, ou une partie en tout cas de Versailles. 125 millions d'euros. Reconstruire un palais qui a été construit plusieurs siècles auparavant. Pourquoi pas ? Nous pourrions essayer, nous aussi, de reconstruire Jérusalem, ici, au milieu de Kévin. Ce serait, pourquoi pas, quelque chose d'intéressant, d'amusant à faire. Mais que de temps perdu, ce n'est pas notre appel. Notre appel, c'est d'être des hommes et des femmes qui manifestent la restauration du royaume de Dieu au milieu des hommes. C'est cela, notre appel. Un appel sérieux, mais un appel tellement glorieux pour chacun d'entre nous. L'évangéliste Luc dit « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner un royaume, le royaume. » Et plus tard, il dira, on ne dira point « Il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous !» De vous ! Alléluia, Seigneur, parce que tu as ramené les captifs et que ces captifs sont là, semblables à ceux qui ont fait un rêve. Au verset 4, l'auteur de ce psaume emploie un mot presque identique en termes de sens et de sonorité. Il parle des captifs. Éternel, ramène nos captifs. Entre le verset 1 et le verset 4, on a presque les mêmes mots. Vous savez, quand vous lisez le psaume, vous vous dites, tiens, c'est bizarre. Le psalmiste est inconnu, ça pourrait être Moïse parce qu'il a bégayé. Hein, le premier verset, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Et verset 4, Éternel ramène nos captifs. Ce n'est pas un bégaiement. Au verset 1, il est bien parlé de ceux qui sont déjà la restauration de ce monde et qui ont été sauvés. Alors qu'au verset 4, il est bien parlé de ceux qui demeurent captifs. En fait, on passe de la constatation d'un retour partiel, il y a un petit nombre qui a été sauvé, et puis on est en train de prier pour qu'il y ait un retour total de ceux qui sont encore captifs. Et aujourd'hui, c'est là notre prière, c'est là notre mission. Nous avons été ramenés de la captivité, nous avons été sauvés par Jésus-Christ, et nous pouvons, comme au verset 4, dire « Maintenant, Seigneur, ramène les autres captifs !» Ce qui est vrai dans le plan de salut pour Israël, l'est en termes de principe spirituel pour nous aujourd'hui. Seigneur, quand tu nous as ramenés, on était comme ceux qui font un rêve. Mais maintenant, Seigneur, ramène les autres dans ton royaume. Il me semble que l'Église devrait être, entre guillemets, possédée par un esprit de vouloir gagner ceux qui ne sont pas encore ramenés de la captivité. Et sans doute, l'Église est-elle trop frileuse ? L'Église est-elle sans doute trop tiède pour porter ce message impératif, ce que nous avons reçu ? J'ai entendu une prière, « Tu m'as appelé, Seigneur, et j'ai entendu ton appel. Fais-le entendre à ceux qui sont encore captifs, Seigneur, ceux qui sont destinés à la séparation éternelle avec toi. Seigneur, ramène nos captifs. » Entre le verset 1 et le verset 4, nous passons de « Quand l'Éternel ramena » à « Éternel, ramène !»« Fais revenir mon fils qui ne te connaît pas encore, ma fille, mon conjoint, mon collègue de travail, tous ceux qui m'entourent et qui ne sont pas encore revenus à toi, ramène-les, Seigneur ! C'est impératif ! Et fais que je sois quelqu'un qui puisse être une lumière pour cela. » Nous sommes ancrés dans la certitude que ce que nous avons vécu est quelque chose de vrai, de profond, d'essentiel. C'était tellement conforme à ce que nous expérions quand nous avons rencontré Christ. Tout à coup, on s'est dit, mais j'ai recherché le cœur de Dieu depuis si longtemps. Et en le découvrant, c'est vraiment ce à quoi j'aspirais. Tellement fort comme expérience que l'on puisse dire nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Vous savez, pour ceux qui n'ont pas encore de conjoint, mais pour ceux qui en ont, j'espère que ça a été le cas, c'est-à-dire quand vous avez rencontré l'autre ou quand vous le rencontrerez, ça correspondra tellement à ce que votre cœur aspire que vous dire « Waouh, j'ai l'impression de rêver. » J'ai l'impression de rêver. C'est pas possible. Ça peut pas être aussi bien. Quand on a rencontré Dieu, quand on a rencontré Christ, c'est la même chose. On est là, on se dit, waouh, je pensais pas que c'était aussi formidable que de rencontrer ce Père-là. C'est unique. J'ai l'impression de rêver. Et ceux qui rentraient parmi les Juifs à Jérusalem en accompagnant Esdras et Néhémie, ils étaient à la fois désolés du temps perdu, peut-être, mais en même temps tellement heureux de dire, mais on a l'impression de rêver, on est là, à Jérusalem, là où on doit être. Et lorsque nous nous sommes convertis, nous avons eu certainement le même discours, et j'espère que nous l'avons toujours. Au plus profond de notre cœur. Waouh, c'est tellement fabuleux. J'ai l'impression de rêver. C'est Martin Luther King qui, en 63, à Washington DC, faisait ce fameux discours que j'aime dire et répéter, et qui disait « Je rêve qu'un jour, sur les collines rouges de Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je rêve qu'un jour, l'État du Mississippi lui-même, tout brûlant des feux de l'injustice, tout brûlant des feux de l'oppression, se transformera en oasis de liberté et de justice. Je rêve que mes quatre petits-enfants vivront un jour dans un pays où on ne les jugera pas à la couleur de leur peau, mais à la nature de leur caractère. Je fais aujourd'hui un rêve. » C'est beau de rêver. C'est beau d'avoir le sentiment de voir aussi que ce rêve s'accomplit. J'imagine les enfants de Luther King relisant ces paroles et se disant « Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore arrivés totalement au but, mais nous voyons des choses qui n'étaient que de l'ordre du rêve. Est-ce que nous sommes dans cette attitude ? Nous ne sommes pas arrivés encore, mais ce que nous vivons avec Christ est le commencement, l'accomplissement des rêves que je portais en moi et qui ont été réveillés par la vie de Jésus-Christ et par la relation avec mon Dieu. Lorsque nous voyons l'œuvre de Dieu, alors cela devient tellement surprenant que nous avons l'impression qu'il s'agit d'un rêve. Mais c'est un rêve que nous pouvons vivre, frères et sœurs, que nous pouvons vivre. Laissons-nous surprendre, étonner, émerveillé par l'œuvre de Dieu dans notre vie. Dans cette année 2016, n'ayons pas peur de rêver les rêves de Dieu et de les vivre. L'évangéliste Jean dira « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. » Alléluia ! Des rêves à l'étonnement. Quand je rêve les choses de Dieu et que Dieu agit, alors Dieu veut m'étonner, m'émerveiller. Est-ce que vous voulez que cette année, dans votre vie personnelle, Dieu soit le Dieu de l'émerveillement, de l'étonnement, afin que vous soyez... Dieu veut nous étonner. Vous saviez cela ? Dieu veut nous étonner. Là où nous sommes... enfermés par nos idées, par nos principes, par nos limites, Dieu veut nous étonner. Michel, Dieu veut t'étonner cette année. Amen. Hein ? Mes enfants me disaient, pendant qu'on était en Suisse, que j'ai l'habitude de faire, de les surprendre. Ils me racontaient des histoires dans leur jeu. Ils disaient, mais tu avais l'habitude de nous surprendre, nous étonner, de faire des surprises, des blagues tout le temps, etc. Alors même quand je fais pas de blagues, ils s'attendent à ce qu'il y en ait une. Ou quand je dis quelque chose, hier c'est arrivé, même Émilie, elle était là, elle disait, on attend. Mais non, je dis, j'ai rien à dire, je me suis trompé. Ah bon, on s'attendait à quelque chose. Mais Dieu, cette année, veut vous étonner. Est-ce que vous attendez à cela dans votre vie ? Dans votre vie personnelle ? À ce qu'il vous fasse tomber les limites que vous avez posées ou que j'ai posées dans ma vie ? Ce qui fait que je dis, non, ce sera comme ça, ça ne bougera pas, ce ne sera pas différent. Dieu veut cette année t'étonner et t'émerveiller par son œuvre. Alléluia ! Dieu veut nous étonner. Et nous, est-ce que nous voulons continuer à avancer dans la tranquillité de ce que nous avons déjà connu ou vécu, ou laisser Dieu poursuivre son œuvre en nous et au travers de nous? Alors, notre bouche, dit le verset 2 de ce psaume, était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Et le verset 3, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Entre le verset 1 et 2 apparaît un changement de temps qui est vraiment propre au style poétique hébraïque, qui est assez difficile à rendre en français. Mais entre le verset 1 et 2, il y a un changement de temps permet au psalmiste de se transporter par la pensée à cet instant du retour dans le passé et de décrire la joie qui était actuelle dans le passé et pas encore achevée. C'est un temps de verbal en hébreu qui est assez particulier. Ça existait et c'est pas encore terminé. Ouais. Il y a des choses qui existaient quand nous avons rencontré Dieu et qui ne sont pas terminées. Et Dieu veut les achever dans notre vie. Est-ce que nous sommes prêts à laisser l'œuvre de Dieu s'achever, se poursuivre et s'achever en nous? Deux mots expriment la joie au verset 2. Notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. En fait, ces deux mots, c'est le premier, c'est le rire, et le second, c'est le cri. Le rire et le cri. Ce sont les deux mots hébreux qui ont été utilisés. Notre bouche était remplie de rire et notre langue de cris d'allégresse. Le rire et les cris de joie. Est-ce que notre vie aujourd'hui est un témoignage de ce que Dieu a accompli? Est-ce que notre bouche est remplie de rire? J'ai passé un moment avec mon petit-fils il y a une semaine et il me regardait, il me faisait. Puis moi je faisais. Puis mon petit-fils faisait. Et on a passé plusieurs minutes à rire ensemble. Est-ce que notre bouche est remplie de rire? C'est-à-dire de cette joie profonde qui est lié au sentiment de délivrance, de liberté, de vie que nous avons reçue. Ou bien tout cela est-il étouffé? Étouffé par ce que l'adversaire fait rentrer dans notre vie, l'opposition, ou ce que Dieu ne permet pas encore d'être réalisé dans notre vie? Oh, c'est tellement dur, c'est tellement triste. Mais quand? Quand cela arrivera dans ma vie? Alors là, je serai pleinement heureux ou heureuse. J'ai beaucoup de mal à dire vivement. Vous savez, quand on dit « Ah, vivement la semaine prochaine, parce qu'il y a un nouveau film au cinéma. Ah, vivement dans 15 jours, parce que je vais voir mes enfants. Ah, vivement dans 3 mois, parce qu'il y a ma fille qui va se marier. Ah, vivement l'année prochaine, parce que j'aurai atteint tels objectifs dans ma vie professionnelle. » C'est quelque chose que je me refuse, j'en parlais encore avec Francine hier, je me refuse à dire parce que j'ai le sentiment que si je dis vivement les temps à venir, je ne vivrai pas aujourd'hui ce que Dieu veut me donner de vivre, aujourd'hui et maintenant. Alors, souvent, l'insatisfaction vient étouffer un petit peu, moyennement, beaucoup, les rires qui devraient remplir notre bouche et les cris de joie que notre langue devrait exprimer. Et en cela, est-ce que nous ne faisons pas le jeu de l'adversaire? Alors bien sûr, ce n'est pas nier l'importance de certaines choses qui sont lourdes et difficiles. Mais le psalmiste dit, voilà, notre bouche était remplie de rire, notre langue de cris de joie, et aujourd'hui ce n'est pas terminé, ça doit encore se continuer. Ah, je vois bien, il y a des petites bulles au-dessus de certaines têtes qui se disent, oui, mais il ne connaît pas tout ce que je traverse en ce moment. Comme des bandes de dessins dessinés, d'albums dessinés. Ah ouais, mais il ne sait pas que. Ah oui, mais moi, j'ai bien des raisons de. Mais ce que Dieu essaye de nous enseigner, c'est qu'au travers même des difficultés, que nous puissions nous réjouir de ce salut qui nous a été acquis et qui est le fondement même de notre vie et notre relation avec Dieu. Alors, notre vie aujourd'hui, elle est-elle un témoignage de ce que Dieu a accompli? Est-ce que notre bouche est pleine de rire et de cris de joie de cette délivrance quand nous avons été ramenés de captivité et que cette délivrance est toujours la réalité de notre vie aujourd'hui? Mais la libération n'est pas encore totalement achevée. Le peuple d'Israël et le psalmiste disent ben, « nous sommes rentrés ». Et puis, il y en a encore d'autres qui sont captifs. Mais il y a aussi cette pensée de dire, nous sommes délivrés, mais nous n'avons pas encore vécu la totale libération de tout ce qui nous tient entravés. Alors, est-ce que nous pouvons aussi dans notre vie personnelle, vivre cette libération, dire « ramène aussi tout ce qui est encore entravé dans ma vie à la liberté, Seigneur. Ramène-le à la liberté. » Dans le prophète Joël, il est dit ceci, au chapitre 2, verset 23, « Et vous, fils de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous dans le Seigneur votre Dieu, car il vous donne la pluie d'automne salutaire, il fait descendre l'averse sur vous, pluie d'automne et pluie de printemps, comme par le passé. » Dieu veut, en cette année 2016, Joël 2, 23, nous donner toute cette pluie rafraîchissante. Alors ce n'est pas par hasard que je cite ce verset, puisque un peu plus tard, dans le verset 4, il est parlé « ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi ». Je disais qu'effectivement, la joie du salut n'exclut pas la réalité de la souffrance. Mais Paul, l'apôtre Paul, pose bien les choses. La joie relève de l'espérance dans notre vie, l'affliction de la patience en lien avec la persévérance. Il dit aux Romains « réjouissez-vous en espérance ». Est-ce que je peux me réjouir en espérance ? Ouais. J'imagine un enfant, j'imagine Pascal et Patricia, le soir de Noël, disant à Valentin, « Écoute, tu vas avoir un cadeau, je ne sais pas quand, mais tu l'auras. » Ce qu'on te demande, c'est de te réjouir en espérance. Et là, j'imagine dans la tête de Valentin, « Attends, ouais... C'est pas une arnaque, ce truc. Me demander de me réjouir en espérance de choses que je vais recevoir. » C'est pourtant ce que dit l'apôtre Paul aux Romains. Il rajoute « Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans les prières. » Ça signifie que nous avons certes cette joie du salut. Nous avons été libérés, ramenés par Christ à un état d'homme et de femme libre. Mais il y a encore des choses qui ont besoin d'être libérées dans notre vie, de l'asservissement, du péché, de retrouver une pleine liberté. Et nous pouvons, en ce sens, nous réjouir dans l'espérance de ce que Dieu va accomplir. Réjouissez-vous dans l'espérance de ce que Dieu va faire dans votre vie et dans ma vie en 2016. Alléluia. Alors, on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Le psalmiste nous confronte à quelque chose, c'est que lorsqu'il nous montre que l'Éternel a ramené les captifs de Sion, que ceux qui sont rentrés, qui sont conscients de leur liberté, éclatent de joie et disent « Waouh, c'est génial !» Ceux qui réagissent les premiers, ce sont les nations qui disent « Waouh !» L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. C'est là l'impact de la joie du salut de ceux qui sont sauvés par rapport au monde. Notre témoignage, il repose là-dessus. Qu'est-ce que Dieu a changé dans ta vie ? Qu'est-ce qui fait que ton sentiment de joie, de bonheur, peut être différent du mien ? Moi, je suis très heureux parce que je vais aller voir Madonna au Stade de France à telle date, ça va être génial, etc. Moi, je me réjouis parce que je suis invité aux noces de l'agneau et qu'un jour, je verrai Dieu face à face. C'est quoi ta joie par rapport à la mienne ? Et là, l'autre pourra dire, waouh, l'Éternel a fait pour lui de grandes choses. L'Éternel a fait pour elle de grandes choses. Parce que ce que nous avons vécu, ce que nous vivons avec Dieu, le monde ne le connaît pas, mais le monde y aspire. Il attend la révélation des fils de Dieu. Mais si je suis dans la tristesse, dans l'abattement, en oubliant tout ce que j'ai déjà reçu de Dieu, qu'est-ce que le monde pourra dire ? Ce qu'il dit bien souvent et que vous avez peut-être entendu. Finalement, t'es pas très différent de moi. Qu'est-ce que tu as de plus quand je te regarde, quand je te vois vivre, quand je t'entends t'exprimer sur ce qu'est ta vie ? Autant de lamentations, de tristesse, de soucis. Qu'est-ce que tu as de plus que moi ? Alors que là, le psalmiste dit, Ah, les nations, quand ils les ont vus rentrer, aussi heureux de leur esclavage, de leur déportation, ils ont dit, waouh, leur Dieu a fait de grandes choses. C'est le premier effet. Et c'est seulement après que le psalmiste dit, eh bien, effectivement, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Waouh, c'était génial. Mais le premier effet, c'est ce que le monde voit du salut qu'il nous a accordé. Alors, nous sommes dans la joie. Et la prière du verset 4, bah, puisque nous avons vécu cela, et c'est Éternel, ramène les autres à toi. Ramène-le dans le pays de la promesse. Fais-les revenir. Ramène ceux qui sont captifs. Et là, on est bien dans un mot différent de celui du premier verset où c'était ceux qui ont été sauvés, ceux qui ont connu le salut, ceux qui sont la restauration de Sion sont rentrés. Ils sont restaurés. Maintenant, les vrais captifs, ceux qui restent, qui sont encore captifs, fais-les revenir, Seigneur. Est-ce que nous prions pour cela? Est-ce que en cette année 2016, nous allons prier pour tous ceux que Dieu placera sur notre route? Alors, on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Chaque jour, quand on les regardait, ils étaient assidus au temple, d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ce qu'il sauvait. Ça, c'est les actes des apôtres. Est-ce que ce n'est pas ce à quoi nous sommes appelés en tant que témoignage? Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Après la reconnaissance qui marque les trois premiers versets, nous entrons dans la seconde partie du psaume, la demande et l'attente d'un rétablissement total. Le midi se dit en hébreu le Negev, vous le saviez? Là où il est traduit « ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi », en fait, c'est comme des ruisseaux dans le Negev. C'est le même mot. Il ne s'agit pas simplement d'une direction, mais d'un lieu. Et en Palestine, le Negev, tu y étais, non? Voilà, tu y étais cette année, enfin l'année dernière. C'est la Palestine, à partir de la Palestine, qui est complètement désertique. Ramène nos captifs qui sont dans le désert. Certains ont l'impression de ne pas l'être, mais au fil du temps, ils finissent par se rendre compte que ce monde est aride, sans espérance. Rien qui ne satisfasse la soif, qui ne puisse étancher la soif que l'on peut éprouver au plus profond de soi. Et dans le Negev, l'arrivée de l'eau est un événement. Est-ce que Christ n'est pas cette source qui a abreuvé notre vie, au point que nous puissions nous réjouir de dire « Waouh !» Prendre cette eau, être vivifié à nouveau. Ramène ceux qui sont dans le désert, Seigneur. Dans notre vie, prions pour que la parole d'Ézéchiel qui disait « Humain, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la fureur. » Prions pour que cette parole d'Ézéchiel ne retentisse pas au milieu des hommes, mais qu'au contraire, par notre témoignage, par notre vécu, nous puissions dire aux hommes, la source d'eau, au milieu du désert, nous la connaissons. L'oasis qui peut rafraîchir vos vies, il a un nom, c'est Jésus-Christ. Venez, buvez. Le psaume 72 parle du roi, du Messie en disant « Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. » C'est un message du psaume 72 qui parle de ce que Christ accomplira. « Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché. » Vous savez, quand l'herbe a été fauchée, qu'il ne reste plus rien de vert, eh bien, la pluie de Christ. Christ sur une vie complètement éradiquée, sèche, viendra et fera fleurir le juste. C'est ce que le psaume 126 demande dans sa prière. Ramène nos captifs dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant quand ils portent la semence revient avec allégresse quand ils portent ses gerbes. Le temps actuel, malgré le retour des exilés dans ce psaume 126, est encore un temps difficile et douloureux pour ceux qui sont entrés. Relisez Esdras et Néhémie, vous verrez combien ce temps a été difficile pour ceux qui étaient rentrés. Comme il peut l'être pour nous aujourd'hui. Nous sommes une poignée à être rentrés au regard de tous ceux qui sont encore en exil et loin de Dieu. Mais la joie éclatera à nouveau au temps de la moisson. Le verset 5 et 6 parlent de l'aller et du venir. Lorsqu'il sème et qu'il s'en va, lorsqu'on le voit partir de dos, celui qui part semble fatigué. Il a une mission qui n'est pas facile, semer. La marche est lente et pénible en allant. Mais, ce que dit le psalmiste, pour ce qui est de revenir, il revient dans l'allégresse. Alors je nous invite, frères et sœurs, sur cette année 2016, à être des hommes et des femmes qui vivions ce psaume 126. Nous avons été ramenés de captivité, que nous puissions, nous qui pensions que c'était un rêve impossible, vivre ce rêve et nous réjouir en Christ, et que le monde, en nous regardant, nos collègues de travail, ceux qui nous entourent, se disent « Waouh ! Leur Dieu a fait des grandes choses. Ça doit être intéressant de le connaître. » Laissons-nous par l'Esprit Saint vraiment conduire dans toute la dynamique de ce psaume dans nos vies personnelles. Amen. Seigneur, nous voulons en toute simplicité nous approcher de toi et te demander, dans les temps qui viennent, là aussi, de nous faire entrer dans les plans qui sont les tiens. Enlève de nos cœurs et de nos regards tout ce qui peut empêcher la joie du salut d'éclater dans nos vies, de réchauffer nos âmes et d'étonner ceux qui nous entourent. Parce que nous, ce que nous vivons avec toi est unique, vrai, essentiel. Alors que nous puissions simplement nous en réjouir, même dans les moments difficiles, donne-nous là aussi la persévérance. Et que ces moments difficiles ne dénaturent pas ce que nous sommes en toi et la joie que nous avons à te connaître et à vivre avec toi. Dans les temps qui viennent, Seigneur, continue ton œuvre de libération, que nous puissions véritablement, dans tous les aspects de notre vie, devenir libres pour toi. C'est là notre prière. Amen.